La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nathalie Frolov, professeure de lettres en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris et qui vient donc régulièrement évoquer un aspect de nos héros de la semaine. Bonjour Nathalie.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous venez nous parler de Chopin et des écrivains.
Oui, alors pour prolonger cette émission, j'aurais pu effectivement parler aussi de Georges Sand ou bien de Gide qui a écrit des notes sur Chopin ou de Proust. Alors Proust qui a joué à reproduire la musique de Chopin dans Un amour de Swann en évoquant des phrases musicales, je cite, « au long col sinueux et démesuré, si flexible, si tactile, qui commencent par chercher, essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ. » Je coupe la phrase. Voilà, on a un petit peu, j'aurais pu, voilà, parler de Proust, qui parle un petit peu de lui, tout en parlant de Chopin, et qui applique le rubato dont vous avez parlé hier, en ralentissant et en accélérant le rythme de ses phrases. Mais plutôt que de m'intéresser à la littérature, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de regarder ce que la philosophie disait ou ne disait pas de Chopin. Alors, il y a un très joli livre de François Noudelman qui s'appelle « Le toucher des philosophes » et il étudie justement cette pratique personnelle du piano chez Sartre, Nietzsche et Barthes. Alors c'est assez intéressant parce que de manière paradoxale, il s'intéresse à trois personnages qui ont joué du piano sans nécessairement écrire sur le piano. On a donc une dissociation entre le jeu et l'écriture et qui se voit, je prends l'exemple de Sartre parce qu'il est assez intéressant, Sartre qui adorait Chopin mais qui n'en a pas parlé, il s'est même moqué un petit peu en fait des clichés autour de Chopin, on en parlait à l'instant, associé un petit peu à cette musique romantique. Alors je cite, c'est dans la nausée. Les salles de concert regorgent d'humiliés, d'offensés, qui, les yeux clos, cherchent à transformer leur pâle visage en antenne réceptrice. Ils se figurent que les sons captés coulent en eux, doux et nourrissants, et que leurs souffrances deviennent musique, comme celle du jeune Werther. Ils croient que la beauté leur est compatissante, les cons. C'est François Noudelman qui cite ce passage pour montrer l'hiatus apparent entre un Sartre un peu dur, un peu impitoyable, et un Sartre passionné, emporté par Chopin, ce Chopin qui serait bon pour orner les boîtes de chocolat. C'est un hiatus en fait apparent, car c'est oublié que la nausée aussi devait s'appeler Mélancolia. Mais il y a un autre philosophe contemporain de Sartre qui lui va aussi tâcher d'évoquer la musique de Chopin, mais d'une autre manière.
Alors qui est cet autre philosophe, Nathalie ?
Alors il s'agit de Jean Kilevitch, dans un tout petit ouvrage qui s'appelle « Le Nocturne ». Alors Jean Kilevitch, il a beaucoup écrit sur la musique, hein, et il a lui-même été un très très grand joueur de piano, et on sent bien justement cette pratique très personnelle des nocturnes de Chopin dans ce qu'il en dit, et pas simplement parce qu'on voit bien qu'il sait lire les notes. Hein. En fait, ce que Jean Kilevitch essaie de faire dans cet ouvrage, c'est de déployer un imaginaire nocturne, de montrer le caractère qu'on pourrait appeler intergénérique du terme nocturne, c'est-à-dire qui passe de la littérature à la musique, à la peinture. Alors Jean Kilevitch, dans un étoilement de référence, si j'essaie de filer la métaphore nocturne, Jean Kilevitch va convoquer aussi bien Pascal, le Pascal du Mémorial, que la Ronde de nuit de Rembrandt, aussi bien les synesthésies baudelairiennes que la mystique de Saint-Jean de la Croix ou la toile d'araignée du crépuscule qu'on trouve chez Gaspard de la Nuit. En fait, le livre y propose une véritable réflexion qui va au-delà en fait, de la musicologie ou de l'esthétique, tout en les maîtrisant. Il offre une synthèse de la nuit chez Chopin, chez les peintres, chez les poètes, mais il témoigne aussi d'un vrai plaisir à écrire sur les sentiments que suscite la musique de Chopin. Mais il fait plus que cela, Jean Kilevitch, et c'est pour cela que ce petit livre est très intéressant. Le nocturne devient un concept philosophique qui entre en tension avec le jour, et comme il le dit, moi j'aime beaucoup cette citation de manière un peu métaphorique, si le jour est le théâtre de l'histoire, la nuit est plutôt le royaume du destin. Le nocturne renvoie ici à une sorte de nouvelle vie, une vérité libérée de la lucidité, l'aveuglement cartésien. Ce nocturne exprime la complexité du réel, le refus des évidences. Et on peut dire qu'effectivement, Jean Kilevitch, il parle de musique, mais en fait, il montre aussi qu'il s'agit là, en parlant de musique, du cœur même de la vie. Car ce petit livre, Le Nocturne, est écrit en 1942, à un moment où le philosophe ne peut plus en fait enseigner, où il doit se cacher à cause des lois contre les Juifs. Et donc Chopin permet en fait à Jean Kilevitch en quelque sorte de survivre, de dévoiler un sens caché des choses, de distinguer l'ineffable de l'innommable et d'espérer, comme il le dit dans la préface, Il espère cette certitude d'une aurore au sein de la sombre nuit de notre détresse.
Jean-Yves Pat, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse du livre de Jean Kelevitch sur Chopin que vous connaissez forcément?
C'est transparent. C'est vraiment ça dans l'œuvre de Chopin. Le Nocturne, c'est le refuge des idées pures, alors que les autres pièces sont des pièces de salon qui sont des pièces d'action. Et vraiment, c'est bien mieux dit, évidemment, chez Jean Kelevitch, qu'en trois mots ici.
C'est bien dit aussi, grâce à vous, Nathalie Frolov. Merci beaucoup pour votre chronique. À très bientôt.